France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la libre pensée. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. Bonjour, au micro Christophe Biteau, vice-président de la Fédération nationale de la libre pensée. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christian Echen, secrétaire général de la libre pensée. Bonjour Christian.
Bonjour.
Pour parler de la libre pensée dans la résistance. Ma première question sera la suivante. Le plus souvent, la résistance est présentée comme l'action des gaullistes, des communistes et parfois même des catholiques, mais on oublie toujours les libres penseurs. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer cet ostracisme ?
Tout d'abord, à la Libération en 1945, il y a eu une sorte de deal conclu entre différents partis politiques, de droite comme de gauche, qui ont formaté une vulgate sur la résistance. La résistance était effectivement d'abord les gaullistes, les communistes, parfois quelques catholiques, rarement les socialistes, et bien évidemment tout ce qui ne s'inscrivait pas dans cet accord politique de l'époque qui allait avoir des conséquences, tout ça, tout ce qui ne s'accordait pas avec la vulgate a été expulsée directement parce que ça allait à contre-courant. Il a fallu longtemps pour que, par exemple, la question de l'extrême droite, une partie de l'extrême droite ont figuré parmi les premiers résistants, il a fallu longtemps pour que ça soit intégré. Et la libre pensée, et même les laïcs en général, ont complètement été évacués et disparus. C'est pour ça que nous avons fait cet ouvrage.
Une forme de Yalta de la résistance, on dirait.
Plutôt Potsdam. Hein.
Oui, plutôt Potsdam. La réponse à cette injustice pour la libre pensée, ça a été de rendre hommage à ces résistants. Le 12 avril 2024, si ma mémoire est bonne, devant le Panthéon, et de publier un ouvrage qui comprenait pas moins de 182 notices personnelles de résistants libres penseurs, ce qui remet quand même en cause la présence des libres penseurs dans la résistance. Est-ce que vous pouvez évoquer ces deux initiatives ?
Oui, tout à fait. Nous nous sommes inscrits dans la thématique qui était celle du moment, notamment de la réhabilitation de Manouchian et des étrangers dans la FTP Moy, dans la résistance. Donc, nous avons voulu le faire devant le Panthéon. On avait demandé à pouvoir faire les marches. L'intérieur, on savait qu'on nous le refuserait, mais on nous a même refusé les marches. Apparemment, c'était... On allait contre la vulgate.
C'était encore trop.
Oui, tout à fait. Oui. Donc, on a fait cette cérémonie et on a relié le passé, le présent pour l'avenir. C'est-à-dire que nous avons sorti un ouvrage, La libre pensée dans la résistance, et un autre en hommage à Marc Blondel, qui a été secrétaire général de la CGT Force ouvrière. Et ensuite, quand il a cessé ses fonctions et son mandat, il est devenu président de la libre pensée. Donc, nous avons voulu faire ça pour rendre cet hommage. Et nous avons cherché, pour rédiger cet ouvrage, bien sûr, qui a deux parties en fait essentielles. Une partie de présentation générale de la résistance, avec, à mon avis, quelques nouveautés qui peuvent surprendre ceux qui vont le lire. Et ensuite, des notices de libres penseurs dans la résistance. Donc, à partir de là, on pensait qu'on en aurait quelques-uns. On en a découvert, maintenant il y en a plus de 182, il y en a près de 200 de libres penseurs engagés dans la résistance, à tous les niveaux, dans les maquis, dans les réseaux de base, dans les mouvements de renseignement, à l'Assemblée consultative d'Alger et au Conseil national de la résistance. Il faut savoir que dans le manifeste de novembre 1940 contre la charte d'Amiens, qui est signé par 9 syndicalistes confédérés de la vieille CGT et 3 de la CFTC. Il y a Louis Saillant, qui va jouer un rôle très très important dans la résistance, qui va même être le troisième président du Conseil national de la résistance, et qui va donc œuvrer à toute cette bataille. Et c'est notamment lui qui va conseiller à Jean Moulin d'appeler le CNR Conseil national de la résistance, et qui va notamment lutter contre les menées du Parti communiste dans la résistance, qui voulaient minimiser les revendications des travailleurs afin de ne pas déplaire aux éventuels patrons patriotes. Donc tout ça est indiqué dans cet ouvrage, et nous avons fait cette cérémonie qui a eu un certain écho avec un certain nombre de publics, et je pense que ça a un peu marqué les esprits.
Alors j'allais vous demander de nous parler de la résistance des libres penseurs, mais vous l'avez largement évoqué, notamment par la présence dans tous les réseaux de résistance. Je vais passer à la question suivante. À la lecture de cet excellent ouvrage, et je le dis sans flagornerie aucune, je le conseille vivement, j'ai été frappé par le profil type, je dirais, du résistant libre penseur. Alors, pour résumer, on va dire qu'il est rarement communiste, il est parfois anarchiste ou trotskiste, mais le plus souvent, et c'est vraiment un trait saillant, le plus souvent il est militant SFIO et, ou les deux, franc-maçon.
Alors, pour reprendre un peu l'explication, il faut comprendre une chose qui est très importante, ce qui différencie la libre-pensée d'autres mouvements, notamment syndicalistes, c'est que la libre-pensée est dissoute officiellement par le régime de Vichy en octobre 1940. Donc la libre-pensée n'existe plus. Elle a interdiction de se réunir, donc vous imaginez, même s'il y a une action clandestine qui a continué, notamment autour de la solidarité, c'était pas extrêmement simple. Je dis bien par rapport aux syndicalistes, et c'est pas dévalorisant, c'est que Pétain a dissous les confédérations syndicales, mais pas les syndicats, pas les unions départementales, pas les fédérations professionnelles, parce que l'objectif de Pétain, c'était de les intégrer dans le cadre de la Charte du Travail. La libre-pensée n'a pas du tout été intégrée. Elle a été interdite, réprimée, comme les obédiences maçonniques. Ça a été dans le même tabac. Alors, les profils des militants, si vous voulez, c'est parce que il y a d'abord la vieille tradition ouvrière socialiste, au bon sens du terme, qui n'a plus rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Donc, c'est cette vieille tradition-là. Le Parti communiste, lui, en 1936, Maurice Thorez fait une déclaration sur « Je te tends la main, ouvrier catholique, ancien combattant devenu croix de feu ». Il était membre, Maurice Thorez, de la libre-pensée, ce qu'on appelle la libre-pensée prolétarienne. Il a été exclu de la libre-pensée pour avoir fait cette déclaration. Ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup de libre-penseurs membres du Parti communiste français, même s'il y en avait quelques-uns. Mais la grande majorité ne se reconnaissait pas parce qu'ils tendaient la main aux catholiques. Ce qui était un peu contradictoire avec l'appartenance à la libre-pensée. Donc cette reprise de cette vieille tradition, et souvent, on a une expression chez nous à la libre-pensée, les militants de la libre-pensée ont souvent plusieurs cartes. Ils ont une carte syndicaliste, ils ont une carte politique, souvent à gauche, ils ont la carte de la libre-pensée, et beaucoup d'entre eux sont aussi francs-maçons dans différentes obédiences.
Je confirme. Alors, il nous reste maintenant une dizaine de minutes. Il va falloir faire un choix cornélien en 10 minutes parmi les 182 résistants qui sont mentionnés dans le livre. Si vous deviez en choisir quelques-uns en particulier, je dirais même les faire revivre, ce serait que justice, les faire revivre en quelques mots, qui seraient-ils et quelles seraient les raisons de votre choix ?
C'est comme vous le dites, cornélien, j'en ai trouvé 12, puisqu'il fallait ne pas citer les 182, parce que là, c'est pas remplir 10 minutes.
Qui fera moins d'une minute par camarade.
Oui. Alors, d'abord, c'est par ordre alphabétique, Gérard Bloch, qui est un militant trotskiste, membre de la 4e internationale, mathématicien, qui a été déporté dans les camps et qui a pu heureusement s'en sortir et qui était membre de la libre pensée. Donc c'est une grande figure dans certains milieux. Il y en a d'autres. Un autre, Henri Fabre, qui est aussi très connu. C'est le véritable fondateur du mouvement du planning familial.
Ah oui.
C'est lui qui a ouvert les premiers centres d'IVG en France. Donc, à une époque où c'était quand même le règne de la loi de 1920 qui interdisait l'avortement et toute propagande, toute publicité pour la contraception.
C'est pareil.
Donc, il avait été membre du Parti communiste français. Il a quitté ce parti pour des raisons de divergence. Il est devenu d'ailleurs à cette époque-là la libération militant trotskiste de la 4e internationale. Et après, il s'est surtout investi dans le cadre du mouvement pour le planning familial et pour le droit à l'avortement. Il y en a un autre, le suivant que je citerai, c'est Roger Labrusse, qui est quelqu'un de très connu et membre du Parti communiste français. Il était dans la résistance au sens où il a réussi à passer à Alger à un moment donné après le débarquement allié et il a été parachuté en Corse, au moment de la libération de la Corse, pour organiser la résistance et l'insurrection, et il est devenu le premier préfet de la Corse libérée en 1944.
Un rôle majeur, donc.
Vous voyez, ça donne une certaine idée. Vous en avez une autre, résistante, libre-penseuse, c'est Yvonne Le Tac.
Ça va en surprendre plus d'un.
Et qui, avec son mari, c'est parfaitement investi, pleinement investi dans la résistance, et c'est la mère de Joël Le Tac, qui a été ministre gaulliste. Il y a aussi les frères Lyon, Antonin et Raoul, qui étaient des militants anarchistes, qui tenaient une imprimerie, qui donc ont organisé la résistance. Ils étaient dans un réseau avec quelqu'un comme Georges Chédy. Et le 8 février, avec l'Union départementale CGT de Haute-Garonne, la Libre-Pensée va organiser un grand hommage, comment dirais-je, aux frères Lyon, et donc à tous ses camarades, notamment Georges Chédy dans la résistance. Vous avez un autre, Jacques Mitterrand, qui a été grand maître du Grand Orient de France, ce qu'on a appelé un compagnon de route du Parti communiste français, vous voyez, on en trouve quand même, donc qui a eu un rôle très 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 important, à la fois dans la résistance et ensuite après la libération et dans la période qui s'est suivie. Vous aviez aussi Louis Persaud, qui était un grand poète, hein, qui a milité au début dans des réseaux antimilitaristes avant la guerre de 1914, qui a été réprimé, emprisonné pour action antimilitariste, et qui a continué son action, naturellement, dans la résistance. Vous avez Jean-Pierre Raffin-Dugens, libre penseur, qui a été un des trois députés en 1915 à voter contre les crédits de guerre de la Première Guerre mondiale.
Il n'y en avait pas beaucoup.
Il y en avait trois qui ont été réprimés et tout ça, qui a participé aux conférences de Kenthal et Zimmerwald contre la Première Guerre mondiale. Donc, vous voyez, c'est un truc. Je vais aller vite parce que je crois qu'on a...
Il nous reste 5 minutes.
C'est bon. Alors, donc Raffin-Dugens a été, était à l'époque en tant que député au Parti Socialiste. En 1921, il a choisi le camp de la Troisième Internationale. Donc, il était au PC et il a rompu et il est lui aussi devenu, militant trotskiste de la Quatrième Internationale. D'ailleurs, il a été candidat aux législatives en 1945-1946. Vous en avez un autre qui est aussi très connu, qui va aussi beaucoup surprendre, c'est Paul Ramadier.
En effet.
Hein, qui a été président du Conseil.
Oui.
Alors, pas franchement extraordinairement à gauche,
hein, non.
Mais très laïque et très libre-penseur. Vous avez celui que je vous ai cité tout à l'heure, Louis Saillant, hein, qui était libre-penseur et d'une famille de libre-penseurs dans la Drôme. Donc, c'est lui qui a été l'un des initiateurs du manifeste des 12 syndicalistes contre la Charte du Travail, qui a fait rentrer toute cette action dans la clandestinité. Il a été résistant dès le début, donc dès novembre 40, peut-être même avant. Et c'est lui, comme je le disais, qui a conseillé à Jean Moulin d'intituler l'organe de résistance le Conseil national de la résistance. Et c'est lui qui a lutté pour que le CNR ait une dimension politique d'émancipation sociale. Il s'est donc heurté à ce moment-là au Parti communiste français qui voulait modérer grandement les revendications pour ne pas effrayer les catholiques sincères, comme il disait, dans la résistance, hein, qui allait devenir le MRP avec Bidault, qui est devenu le deuxième président du Conseil national de la résistance après la mort de Jean Moulin. Et c'est lui qui a poussé au maximum les revendications démocratiques et les revendications sociales dans le Conseil national de la résistance. Donc c'est là aussi quelque chose de très important, et juste avant que de Gaulle dissolve le Conseil national de la résistance, il a été le troisième et dernier président du CNR, parce que de Gaulle estimait que la résistance était le gouvernement, et donc il ne fallait pas résister au gouvernement. Donc ça n'avait plus d'objet. Et le dernier, ça a été, sans doute, le plus connu, c'est Jean Zay, qui était franc-maçon au Grand Orient de France, qui était résistant, et qui était libre-penseur. Alors lui, il n'a pas pu faire de résistance active, puisque dès 40, il a été enfermé en prison, et il a été réprimé tout le temps, et en 44, il a été sorti de prison, et il a été exécuté de manière barbare et sauvage par la milice de Darnan et de Pétain. Donc vous voyez, quand on voit tous ces noms-là, ça donne quand même une certaine dimension à ce que c'est que la libre-pensée dans la résistance. Nous espérons que la sortie du livre va permettre de rendre public ça. Nous constatons d'ailleurs qu'il y a à la fois un grand intérêt. On a participé au, au dernier salon du Livre Résistant, et on a eu un bon écho, on a pu présenter notre ouvrage. Mais en même temps, il y a des réticences un peu partout sur la remise en cause de la Vulgate, notamment, je le dis, c'est un peu étonnant, notamment de la part du Canard Enchaîné,
ah oui,
à qui nous avons envoyé cet ouvrage, avec qui nous avons engagé un débat, qui nous dit on va le lire, on va voir si on le chronique ou pas, et qui ne le chronique toujours pas. Ça veut dire que cet ouvrage remet en cause quand même un certain nombre de vérités acquises, et rien que ça, c'est d'ailleurs l'action de la libre pensée, remettre en cause les vérités acquises. Je pense que c'est un ouvrage vraiment que vos auditeurs devraient se procurer et lire, au moins pour avoir un autre point de vue.
Et pour avoir effectivement un autre point de vue que celui du Canard Enchaîné, qui semble s'être à nouveau déchaîné. Je ne sais pas s'il est déchaîné, enchaîné, on ne sait plus trop maintenant d'ailleurs, effectivement. Mais il semble être à nouveau dans, comment dirais-je, dans la pensée commune. Eh bien, écoutez, notre émission arrive à son terme. Vous avez fait largement la publicité de cet ouvrage. Je le conseille à mon tour, véritablement. Si les propos de ce jour vous ont intéressé, je vous invite vraiment, auditeurs et auditrices, à vous procurer l'ouvrage « La libre pensée dans la résistance » aux éditions communes « Libre pensée édition libertaire ». Il est en vente à la librairie de la libre pensée 10-12 rue des Fossés-Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement de Paris, ou sur notre site fnlp.fr à la rubrique librairie. Et il ne me reste plus qu'à remercier notre invité Christian Echen. Merci Christian. À la technique, François Saint-Jour. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. Et à la préparation, Claire Poinsignon. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour évoquer une figure du féminisme, de l'anarchisme, qui s'appelle André Léaud.